Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. L'inquiétude des médecins et épidémiologistes face à une courbe de contamination qui ne baisse plus en France, 10 à 11 000 cas par jour sur la dernière semaine, loin des 5 000 fixés par le gouvernement pour déconfiner le 15 décembre. Un accord à Bercy avec les assureurs pour le gel de leurs primes l'an prochain dans les secteurs de l'hôtellerie, restauration et de l'événementiel. Toujours pas d'accord de Brexit, les discussions de la dernière chance ne donnent rien. Novembre 2020 a été le mois le plus chaud jamais enregistré dans le monde. C'est le moment où le gouvernement met la dernière main à la loi issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Citoyen qui reproche à Emmanuel Macron de ne pas tenir sa parole. Invité l'Europe Midi, l'ingénieur... Excusez-moi. L'ingénieur Jean-Marc Jancovici, membre du Haut Conseil pour le climat. Dans l'actualité encore, la visite du président égyptien Al-Sisi en France, Emmanuel Macron attendu sur la question des droits de l'homme et des performances qui interrogent au marathon de Valence avec 30 coureurs sous les 2h10.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Y aura-t-il déconfinement à Noël? Ce qui semble acquis pour les Français ne l'est pas du tout au regard de l'objectif fixé par le gouvernement, passer sous la barre des 5000 contaminations par jour au 15 décembre, c'est-à-dire dans une semaine. Hier, le compteur était à 11 000 et en moyenne, sur la semaine écoulée, 10 500, Victor Delande. Comme le disent les épidémiologistes, nous sommes sur un plateau.
Oui, écoutez cette tendance. 10 000 cas vendredi, 10 500 samedi et 11 000 hier. Les contaminations quotidiennes stagnent depuis quelques jours, en légère augmentation même dans certains départements. Citons les Landes, la Côte d'Or et l'Ille-et-Vilaine. Alors comment expliquer cette stagnation? C'est toujours une question très délicate, mais il y a quand même quelques pistes. Il faut dire que les magasins non essentiels ont rouvert depuis 10 jours. Il fait aussi plus froid. Ça nous conduit automatiquement à nous voir plus souvent à l'intérieur. Et puis, certains épidémiologistes avancent une autre explication. Le discours d'Emmanuel Macron le 24 novembre dernier annonçait des bonnes nouvelles, une épidémie qui reculait et des perspectives de déconfinement. Hors problème, les bonnes nouvelles s'accompagnent généralement d'un début de relâchement depuis le début de l'épidémie. Il est donc très fort probable qu'on ne soit pas à 5000 cas quotidiens le 15 décembre prochain. Et avec cette tendance de plateau prolongé, impossible de dire quand on y parviendra. Et puis ce qui s'est passé également avec les fêtes de Thanksgiving aux États-Unis, avec une explosion de cas quelques jours plus tard, donne des nœuds au cerveau des épidémiologistes sur les risques des réunions de fêtes de famille à Noël.
Victor Delande, les assurances s'engagent à geler leurs primes l'an prochain pour les secteurs les plus touchés par la crise. Hôtellerie, restauration et événementiel, un accord vient tout juste d'être trouvé à Bercy. Bruno Le Maire, qui avait menacé les assureurs d'une nouvelle taxe, vient d'annoncer ce compromis, Carole Ferry.
Oui, effectivement. Donc ça concerne en effet l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel, mais aussi le sport et la culture. Un gel des tarifs qui ne concernera toutefois que les entreprises de moins de 250 salariés. Au-delà de ce gel, elle propose d'offrir gratuitement une couverture d'assistance en cas d'hospitalisation liée au coronavirus. Les chefs d'entreprise, toujours de ces secteurs les plus touchés, auront droit à une rémunération complémentaire quand ils ne peuvent pas travailler et pourront bénéficier de services à domicile, comme la garde d'enfants, par exemple. Enfin, une médiation de l'assurance va être mise en place pour tenter de trouver des solutions à l'amiable en cas de désaccord sur l'interprétation des contrats d'assurance. L'idée étant que le dialogue l'emporte sur le conflit, a précisé le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Enfin, concernant la création d'une assurance pandémie sur le modèle des catastrophes naturelles, le projet est abandonné pour le moment. Il aurait fallu imposer une cotisation obligatoire pour toutes les entreprises, ce qu'elles ont refusé.
Merci Carole Ferry. Notez encore que la prochaine édition du Salon Aéronautique du Bourget est annulée. L'événement qui draine plusieurs centaines de milliers de visiteurs devait se tenir au mois de juin. Et puis que les deux banques, Société Générale et Crédit du Nord, ont officialisé la fusion de leurs réseaux, ce qui va entraîner la fermeture de 600 agences sur le territoire. Pour le Brexit, ça bloque toujours. Le négociateur européen Michel Barnier est sorti bredouille des pourparlers qui ont repris hier à Bruxelles et qui ont duré jusqu'à minuit. Zéro avancée dans ces palabres présentées comme les discussions de la dernière chance. Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. On a beaucoup parlé de la pêche, mais la question cruciale est bien celle du commerce et de la future concurrence entre l'Angleterre et le continent.
Oui, c'est plus abstrait que la pêche, hein, mais c'est un enjeu colossal sur lequel c'est toujours l'impasse. En fait, les Européens ont peur de la concurrence déloyale du Royaume-Uni après le Brexit. S'il y a un accord, ils vont donner aux Anglais un accès privilégié à leur précieux marché de 450 millions de consommateurs. Donc, ils veulent des garanties que les règles du jeu seront équitables pour les entreprises des deux côtés du Channel. Faut pas que les entreprises britanniques puissent produire moins cher parce que les normes sont plus souples pour elles ou parce qu'elles reçoivent des subventions. Les 27 veulent des engagements écrits ou ils veulent pouvoir mettre des taxes en place si Londres ne joue pas le jeu. En face, on voit pas du tout les choses de la même manière. Pour les Britanniques, le Brexit, c'est le retour de la souveraineté, de la possibilité de faire leurs propres lois, leurs propres choix. Donc là, ils ont le sentiment que l'Union européenne essaye de leur lier les mains. Voilà, il y a une vraie opposition idéologique. Alors, est-ce qu'un rapprochement sera possible ? Celui qui sait comment ces négociations vont finir mériterait un poste de scénariste au cinéma, vient de dire le porte-parole de la Commission européenne.
Il fait très bien. Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Le mois écoulé a été le novembre le plus chaud jamais enregistré dans le monde et la période des 12 derniers mois se situe à 1,3 degrés au-dessus des températures de l'ère pré-industrielle, donc tout près du premier plafond fixé par l'accord de Paris. 1,5 degré, accord qui fête ses 5 ans cette semaine, au moment où le gouvernement présente sa loi issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. La concertation sur ces mesures va durer jusqu'à la fin janvier, mais le climat, justement, n'est pas au mieux entre l'exécutif et les citoyens de la Convention. Qu'est-ce qui fâche, Virginie Salmen ?
Eh bien, après la promesse du président de la République de reprendre les 149 mesures moins 3 jokers sans filtre, les citoyens ont finalement compris que 90% des arbitrages du projet de loi étaient faits et que le texte ne reprendrait que 40% des propositions. Barbara Pompili, la ministre de l'écologie, en personne a dû se fendre d'une tribune dans le journal Le Monde ce matin pour défendre le fond du projet de loi, des arguments qu'elle a martelés sur Europe 1.
C'est une loi qui va changer de modèle français, qui va mettre l'écologie dans le modèle français. Et ce qu'on veut, c'est surtout que ce ne soit pas juste une loi d'incantation.
Alors après ce projet de loi, l'histoire n'est pas terminée, assure la ministre. Les 60% des propositions restantes ne seront pas jetées aux oubliettes. Elles vont se traduire par d'autres textes, des arrêtés ou dans le droit européen ou encore le plan de relance. Certains citoyens de la Convention ont annoncé qu'ils boycotteraient les 5 réunions prévues aujourd'hui et demain avec des ministres et des parlementaires. Ils ne sont pas très nombreux, assure Grégoire Frati, fondateur de l'association Les 150, issue de la Convention citoyenne. Pour lui, l'heure n'est pas tellement au clash. Il y a encore beaucoup de travail pour pousser leurs propositions.
On a des mesures qu'on considère comme des mesures totem qui sont les plus impactantes et les plus structurantes. Il y a cette mesure sur l'obligation de rénovation des bâtiments qui, pour moi, est hyper importante parce qu'elle a un impact fort sur la pollution et les émissions de gaz à effet de serre. Et en plus, elle apporte beaucoup à l'économie. Elle apporte des emplois, des milliards qui seront brassés. Elle apporte aussi des baisses de factures d'électricité pour les Français. Mais il y en a d'autres. On peut parler de la régulation de la publicité ou de l'éducation à l'environnement.
Même les citoyens de la Convention les plus optimistes disent avoir souffert des récentes sorties d'Emmanuel Macron, notamment lorsque le président de la République a déclaré « Je ne veux pas dire que parce que les 150 citoyens ont écrit un truc, c'est la Bible ou le Coran ».
Virginie Salmen, et on revient sur ce dossier dans quelques minutes avec l'invité d'Europe Midi, le membre du Haut Conseil pour le climat, Jean-Marc Jancovici. Un maréchal à l'Élysée, Emmanuel Macron accueille depuis ce matin le président égyptien Al-Sisi. Entretien prévu sur la lutte contre le terrorisme, la Libye, le Liban, etc. Mais les deux dirigeants sont attendus sur la question des droits de l'homme dans un pays, l'Égypte, qui compte plus de 60 000 détenus d'opinion, Jean-Sébastien Soldaini.
Oui, parce que c'était timide les fois précédentes. Lors de sa première rencontre avec le président Sisi en 2017, pas un mot sur le respect des droits de l'homme en Égypte. En 2019, il avait franchi un pas en disant que le pays n'était pas sur la bonne voie. Peut-être que cette fois, ce sera plus ferme, car le chiffre que vous avez donné de personnes détenues arbitrairement en Égypte, Patrick, est impressionnant. Cela concerne toute voix critique, défenseurs des droits, journalistes, opposants. Bénédicte Jeannerot de l'ONG Human Rights Watch évoque notamment le cas de Rami Chat, figure de la révolution de la place Tahrir. Son épouse est française et il est été arrêté il y a un peu plus d'un an.
Il est maintenu en détention et ça reste une priorité absolue que le gouvernement français continue de faire pression sur Al-Sisi pour la libération de Rami et la libération des autres défenseurs qui sont détenus arbitrairement. On voit bien qu'il s'agit d'une répression de très grande ampleur sur laquelle la France ne peut pas rester aveugle et qui devrait la motiver absolument à revoir la nature de son partenariat stratégique avec l'Égypte et à le conditionner à des progrès significatifs sur le terrain des droits humains.
La rencontre est en cours. Nous verrons bien si les deux hommes choisissent d'évoquer cette question des droits de l'homme dans une déclaration commune. Déclaration prévue dans quelques minutes et, en théorie, il n'y aura pas de question de journaliste.
Jean-Sébastien Soldaini, le sort s'acharne sur l'entourage de Trump, le sort et le virus. L'avocat personnel du président Rudy Giuliani, 76 ans, a contracté à son tour le virus. Il a été hospitalisé à Washington. Il va aussi bien que possible, on l'a vu, courir les États-Unis, courir le pays sans masque pour contester la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle depuis des semaines. On a couru très très vite hier dans les rues de Valence en Espagne. 30 participants au marathon l'ont bouclé en moins de 2h10, ce qui est du jamais vu. Les 4 Français engagés ont tous battu leur record personnel. Et dans le semi-marathon, le record du monde a été explosé. Simon Rubin, vous avez des explications rationnelles à cette soudaine accélération ?
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, des chronos ahurissants qui laissent pantois les spécialistes. Les coureurs eux-mêmes reconnaissent qu'il est bien difficile de prendre de tels chronos au sérieux, notamment quand un record du monde est battu 4 fois en une seule course. Écoutez l'analyse de notre consultant athlétisme Jean-Claude Perrin.
Pour l'instant, il n'y a pas d'explication rationnelle en dehors des belles histoires qui consistent à dire « mon entraînement était impeccable, il faut aller chercher plus loin ». Pour l'instant, c'est une immense interrogation sur les résultats des dernières semaines. Il n'y a pas de facteur explicatif en dehors de l'affaire des semaines qui n'ajoute rien à la clarté de ces résultats.
L'affaire des semelles, nous dit Jean-Claude Perrin. En fait, les grandes marques fabriquent désormais des baskets de course avec des lames de carbone dans la semelle qui permettent un meilleur rebond du pied et donc d'aller un peu plus vite. Alors, est-ce que c'est de la triche ? C'est toute la question. La Fédération internationale a en tout cas bien du mal à encadrer cette innovation technologique. Souvenez-vous, on avait eu le même problème en natation avec les combinaisons qui avaient fini par être totalement interdites il y a quelques années.
Simon Rubin, merci. On va regarder le temps de ce début de semaine. À présent avec vous, bonjour Anissa Dadi. Très pluvieux dans le sud-ouest.
Oui, cet après-midi sur les Pyrénées, le Pays Basque, le Limousin, la Nouvelle-Aquitaine. Il pleut déjà chez vous depuis ce matin. Et bien cet après-midi, je suis au regret de vous dire que ces pluies, elles seront encore plus importantes, avec d'ailleurs sur les Landes des coups de tonnerre. Au bord de la Méditerranée, là c'est un ciel bien gris, très couvert pour vous cet après-midi. Sur les Alpes, le soleil brille. Et en Normandie, région parisienne, Hauts-de-France, le soleil fera quelques percées dans le ciel assez gris. Ce sont de belles éclaircies au programme pour le Nord-Ouest cet après-midi. Dans le Grand Est, là, le ciel reste couvert, avec même sur la Bourgogne, quelques petites averses cet après-midi. Les températures, elles sont fraîches. Couvrez-vous, surtout sur la moitié Nord, avec seulement 3 degrés à Langres, 4 pour Lille, 6 à Besançon, Brest, Paris et Lyon. C'est plus doux dans le sud avec 10 degrés à Montauban, 11 à Marseille et Bordeaux, 12 degrés à Nice et Biarritz et 14 degrés sous les nuages de Bastia.
Merci à vous Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Des idées, des propositions pour le climat, il en a plein. Il est le patron fondateur du think tank The Shift Project et membre du Haut Conseil pour le climat. Jean-Marc Jancovici est notre invité dans un instant.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Jean-Marc Jancovici.
Bonjour.
Président fondateur du think tank The Shift Project et membre du Haut Conseil sur le climat. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la loi issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat ?
Eh bien, écoutez, je pourrais en attendre ce que tout citoyen est en mesure d'en attendre, c'est-à-dire une mise en cohérence de l'État entre ce qu'il dit vouloir faire sur la partie climat et ce qu'il fait dans les autres domaines. Ce que pour le moment il n'est pas capable de faire. Je suis pas sûr malheureusement que la loi issue des travaux de la Convention citoyenne va l'amener à résoudre ses propres contradictions.
Quelles contradictions par exemple ?
Par exemple aujourd'hui on ne s'est toujours pas inventé la croissance décarbonée. Quand on regarde ce qui fait croître l'économie, en fait l'économie est essentiellement une affaire de machines, c'est les machines qui produisent dans le monde moderne. Faire croître l'économie, c'est faire croître le nombre de machines qui travaillent pour nous, et faire croître le nombre de machines qui travaillent pour nous en diminuant la pression de ces machines, notamment les émissions de CO2, personne ne sait faire aujourd'hui de façon, j'ai envie de dire, pérenne, durable et massive. Donc là, il y a une contradiction qu'on n'a pas réussi à résoudre. Quand on regarde en pratique ce qu'on fait dans un certain nombre de domaines, on cherche à faire exactement l'inverse de ce qu'on dit vouloir faire sur le papier. Par exemple, l'essor du trafic aérien, c'est un truc qu'on a du mal à rendre compatible avec une baisse forte des émissions de CO2. Or, on parle quand même d'injecter beaucoup d'argent pour essayer de continuer à faire voler beaucoup d'avions. Voilà, donc il y a aujourd'hui un nouveau texte de loi. Il n'est pas complètement sûr que ça va nous aider à beaucoup avancer là-dessus. Parce que le problème à la racine, il est qu'on a des souhaits contradictoires les uns avec les autres, et pour le moment, on ne sait pas arbitrer.
Est-ce que sur le domaine dont tout le monde s'accorde à penser qu'il est crucial, est-ce que sur le domaine de la rénovation énergétique des logements, est-ce que là, ce n'est pas compatible ? C'est-à-dire qu'on réduit les dépenses de chauffage et on peut le réduire de façon significative tout en créant de la richesse, des emplois et en faisant progresser l'économie.
Alors quand vous regardez aujourd'hui ce que représente la dépense de chauffage par rapport au prix de l'immobilier, vous vous rendez compte que la seule manière de rendre une rénovation thermique lourde rentable économiquement, si c'est juste la partie économique qui doit être le moteur, c'est que ça valorise le patrimoine. Sur les simples économies de charges, en fait, c'est très très long d'arriver à s'y retrouver, juste sur la partie isolation.
Même sur le long terme.
Pardon ?
Même sur le long terme.
Ça dépend ce que vous appelez le long terme. Si vous raisonnez à 50 ans avec des taux d'intérêt nuls, non, c'est rentable. Si vous raisonnez à 15 ans avec des taux d'intérêt pas nuls, c'est beaucoup plus discutable. Quand on avait regardé le sujet au Chip Project, en fait, on avait constaté que l'optimum économique, c'est d'isoler sans excès, en gros de diviser la consommation d'énergie par deux, mais pas par beaucoup plus, et de décarboner le vecteur de chauffage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire décarboner le vecteur de chauffage ? Ça veut dire que les logements qui sont chauffés au gaz et au fioul, qui représentent aujourd'hui l'essentiel de l'énergie qu'on utilise dans ce pays, hein, il y a quatre fois plus de gaz et de fioul utilisés dans le chauffage que d'électricité. Hein. Ça veut dire que ces logements-là doivent être passés à ce qu'on appelle soit la pompe à chaleur, soit du bois. Mais le bois, on ne peut pas chauffer tout le monde au bois, il n'en aurait pas assez. Et la pompe à chaleur, en gros, c'est un frigo inversé. Hein. C'est un frigo qui va chercher la chaleur à l'extérieur et qui la ramène dans le logement. Il faut faire les deux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement isoler, il faut aussi changer l'outil de chauffage. Alors, pour faire ça de façon efficace, il faut obliger les propriétaires, donc en gros, vous, moi et tous ceux qui ont les moyens, on est obligés. Ceux qui n'ont vraiment pas les moyens, l'État les aide, mais tous les autres, ils sont juste obligés de faire ça. Et si vous regardez les ordres de grandeur, c'est-à-dire le nombre de logements qu'il faut arriver à rénover chaque année, qui se balade entre 500 000 et 1 million, vous rendez compte qu'il faut faire rentrer 200 000 à 300 000 personnes dans l'artisanat du bâtiment. Donc en fait, les plans aujourd'hui butent sur les conditions de mise en œuvre. Il faut aussi créer la confiance entre les propriétaires et les artisans, ce qui est un exercice compliqué. C'est pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont déjà fait faire des travaux un peu significatifs. On sait que c'est un sujet, donc il ne faut pas se voiler la face, il faut le traiter. Il y a une question de garantie de performance à l'arrivée. Aujourd'hui, on est dans les obligations de moyens, on n'est pas dans les obligations de résultats. Donc, l'essentiel des problèmes à traiter, en fait, ils ne sont pas tant du ressort de la loi que du ressort de choses très pratiques sur lesquelles, pour le moment, la puissance publique est un peu en retrait.
Mais c'est un dossier important, prioritaire. Si je vous ai bien lu, Jean-Marc Vancovici, vous pensez-vous qu'il faut mettre un coup de frein sur les constructions de logements neufs pour, au contraire, rénover l'existant ?
Alors, on a plusieurs sujets qui s'empilent avec le bâtiment. On a un sujet sur la performance de la boîte elle-même, c'est-à-dire le bâtiment lui-même, et on a un sujet d'urbanisme. Le sujet d'urbanisme, c'est où les bâtiments sont situés et qu'est-ce qu'on fait dedans ? On comprend bien que si les bâtiments sont situés dans des endroits où ils sont difficilement accessibles par soit la marche, soit le vélo, soit des transports en commun, ça veut dire que les gens se rendent prisonniers de la voiture. Et donc, on a aussi un sujet qui est, faut-il dans un monde qui va devoir fortement baisser la quantité d'énergie qu'il utilise et qui va le faire de toute façon, que ça lui plaise ou que ça lui plaise pas, pour des raisons de limites géologiques de l'offre en combustible fossile, ça finira par jouer un jour. Faut-il continuer à construire du neuf, sachant que le neuf individuel, c'est essentiellement de l'étalement urbain, hein. Faut-il continuer à faire des zones commerciales en périphérie de ville, etc. Donc oui, il y a un vrai sujet sur le neuf aussi. Alors, le neuf est certes performant au niveau de la boîte, mais par contre, il y a un certain nombre de problèmes qu'il ne traite pas quand on construit, j'ai envie de dire, en étalant l'urbanisme.
Vous pensez aussi, et c'est un sujet important, parce que j'ai entendu hier encore une ministre en parler avec beaucoup d'éloquence, vous pensez, vous, qu'il ne faut pas s'enflammer pour l'hydrogène? Vous l'avez écrit récemment dans une chronique de l'Express. Pourquoi, selon vous, l'hydrogène n'est pas forcément l'énergie miracle ou l'énergie du futur?
Alors l'hydrogène est une aussi bonne idée que la manière de le produire. L'hydrogène, hein, comme beaucoup de gens le savent, c'est l'un des deux atomes que l'on retrouve dans la molécule d'eau. La molécule d'eau, c'est deux fois hydrogène et une fois oxygène. Et la façon d'exploiter l'hydrogène, c'est de le faire brûler ou de le faire brûler de manière douce, ce qu'on a dans une pile à combustible. Et effectivement, à l'endroit où on s'en sert, on n'a que de l'eau. Sauf que l'hydrogène, il a fallu le produire. Excusez-moi, petit chat dans la gorge. Et pour produire l'hydrogène aujourd'hui, on sait très bien faire ça de manière importante dans le monde, mais on le fait en cassant des molécules de méthane en deux, et ça émet beaucoup de CO2, il faut émettre 10 tonnes de CO2 pour faire une tonne d'hydrogène. Donc si on regarde en analyse de cycle de vie, aujourd'hui, l'utilisation de l'hydrogène ne résout pas le problème climatique. Une voiture à hydrogène, par exemple, avec de l'hydrogène qui serait fait de cette manière, et c'est l'essentiel de l'hydrogène sur Terre qui est fait comme ça, hein, elle émet plus de CO2 qu'une voiture à pétrole, en analyse de cycle de vie totale. Pour que l'hydrogène devienne une bonne idée, il faut électrolyser de l'eau avec de l'électricité bas carbone. Donc les gens rêvent de l'éolien et du solaire, mais en pratique, ce serait plus facile à faire avec du nucléaire. Mais quand on regarde la quantité d'électricité qu'il faudrait obtenir pour avoir de l'hydrogène en quantité significative, ça devient un vrai sujet. En France, par exemple, alors évidemment, c'est caricatural ce que je vais dire, mais ça fixe les ordres de grandeur, pour remplacer la totalité du pétrole qu'on utilise dans les transports terrestres par de l'hydrogène, il faudrait doubler la production électrique française, doubler. Oui. Voilà, donc on voit bien, donc il faudrait augmenter le parc de réacteurs français de 150%. On voit bien qu'il faut un peu plus que de le dire pour y arriver.
À propos de nucléaire, justement, dans son entretien à Brut vendredi, Emmanuel Macron a lancé « Je ne suis pas anti-nucléaire ». Ça vous a fait plaisir ou vous avez trouvé que c'était bien le minimum ?
Alors, je n'ai pas regardé l'interview à Brut. Moi, ce qui m'intéresserait surtout, c'est qu'il dise « J'ai fait une connerie en fermant Fessenheim ». Je ne sais pas s'il l'a dit.
Non, il ne l'a pas dit. Il a dit que c'était...
Bah, il aurait dû.
Il a rappelé que c'était la décision du quinquennat d'avant.
Oui, alors ça c'est, elle a bon dos, le quinquennat d'avant. Quand on est président dans un pays comme la France, où on maîtrise l'agenda du Parlement, on fait exactement ce qu'on veut, donc ça, j'achète pas.
Oui. Et il a rappelé aussi qu'il y avait cette loi qui prévoyait la réduction du nucléaire dans le mix énergétique. Et
oui, il est en train de faire voter des tas de lois en ce moment, sauf erreur de ma part, donc il pouvait très bien revenir dessus. Non, ça, j'achète pas. Donc moi, j'attends qu'il y ait un aggiornamento qui soit fait là-dessus, en disant « Merde, on a fait une connerie, il fallait pas faire ça, et les 50% de nucléaire dans le mix, en fait, c'est pas une bonne idée, donc on va revenir dessus. Ouais. » Pour le moment, tant que j'ai pas entendu ça, le reste... Je reste très perplexe.
Et en deux mots, en quoi ça a été une connerie ? On en mesure précisément les effets sur l'origine de la consommation d'énergie en France ?
Oui, parce qu'en fait, il faut resituer le cadre global dans lequel on doit agir.
Oh, il nous reste quelques secondes.
Le cadre global dans lequel on doit agir, c'est qu'on est dans une course contre la montre. On a quelques dizaines d'années pour ramener les émissions de CO2 à zéro sur la planète. Quelques dizaines d'années, c'est très court. Hein. C'est d'ici à ce que mes enfants aient mon âge. Hein. C'est très, très court. Et il faut que ce rythme de baisse soit de l'ordre d'un Covid supplémentaire par an. Il faut baisser les émissions de 5% par an tous les ans sur Terre. Et 5% de baisse, c'est ce qu'on va avoir en 2020 à cause du Covid. Donc ça vous donne l'idée de l'ampleur de la transformation qu'il faut faire. Donc là-dedans, tout ce qui n'appartient pas à l'objectif principal nous fait perdre du temps et divertit des moyens et donc augmente le risque qu'on n'arrive pas à atteindre l'objectif climatique et donc augmente le risque qu'on voit les forêts mourir, les cultures devenir insuffisantes, les migrations augmenter et in fine les régimes politiques basculer dans la dictature, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus, quand on est trop déstabilisé, la démocratie saute.
Merci.
Donc face à ce risque-là, tout argent qui n'est pas investi dans la baisse des émissions de CO2, pour moi, est une perte de temps. Et mettre de l'argent hors en France, l'essentiel de l'argent de la transition, il n'est pas mis dans la baisse du CO2, il est mis dans le fait de remplacer une énergie bas carbone qui est le nucléaire et qui est beaucoup moins risquée que l'idée que les gens s'en font, par une autre énergie bas carbone qui est l'éolien et le solaire, qui en l'occurrence, en ce qui concerne le solaire, est déjà plus riche en carbone que le nucléaire, et qui est de moins bonne qualité parce qu'elle n'est pas pilotable, et qui oblige à augmenter les importations parce que les panneaux ne sont pas faits chez nous, enfin, ça n'a et qui atteinte plus à la biodiversité parce que ça consomme beaucoup plus d'espace. Donc on est en train de faire une substitution qui n'a aucun intérêt sur aucun plan, ça ne baisse même pas le risque nucléaire. C'est un peu long d'expliquer pourquoi, mais ça ne baisse même pas le risque nucléaire.
On est déjà trop long. Pardon Jean-Marc Jancovici, je suis obligé de vous couper parce que on est en train d'exploser les temps, mais on vous retrouvera une prochaine fois. Merci beaucoup Jean-Marc Jancovici, président fondateur du think tank Je Siffle Project et membre du Haut Conseil sur le climat.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Et pardon d'avance pour le retard à Christophe Lamarre pour le 13h. D'autres infos dans quelques instants. Bonne journée.